Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de cette édition de Radio Foot International sur RFI, aujourd'hui consacrée à la Ligue des Champions, puisque nous sommes au lendemain des matchs, premier match retour de cette compétition huitième de finale, et qu'il y a d'autres matchs ce soir. Et nous commencerons par imaginez ce soir avec cette mission domptée, la peur des matchs retour, une très belle occasion pour le PSG ce soir au Parc des Princes de confirmer son excellente prestation au Camp Nou et de se qualifier en quart de finale en éliminant le FC Barcelone, un Barça qui tentera de sauver l'honneur. Messi suffira-t-il? Là-bas en Catalogne, on croit à la remontada. Mais ça vous fait même pas peur. Eric Ravessandra, t'as là, bonjour.
Non, j'ai oublié ce mot, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais non, j'espère que mon PSG ira bien aujourd'hui, donc voilà, c'est tout ce que j'espère.
On verra ça. Pour les Reds, un besoin de sauver la saison en continuant l'aventure en Ligue des Champions, l'année de championnat étant laborieuse pour Liverpool, mais méfiance face à la jeunesse du RB Leipzig. Bonjour Salim Bongali.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Ces pauvres Reds, il faut qu'ils aient encore au moins une compétition dans la tête.
Ils vont faire all-in sur la Champions en tout cas, a priori.
Oui. Vous pensez, bon. La Juventus de Turin, elle, sortie de la scène européenne par une courageuse équipe du FC Porto. CR7 et Pirlo sont-ils les seuls responsables de cette nouvelle élimination en huitième de finale? Le cyborg norvégien frappe encore. Et Erling Haaland établit un nouveau record, un record de précocité. Il déloge même Mbappé en qualifiant les jaunes et noirs malgré une vaillante équipe de Séville en face. Et nous en parlerons avec plaisir. Bonjour, bonsoir, Xavier Barré. Bonjour. On va vous dire les deux.
Au choix.
Non, avec je lui dis les deux et je sais pourquoi. Parce qu'il fait un marathon sur RFI ce soir. Si vous avez en plus des prolongations, vous êtes là jusqu'à minuit. Il faut que vous le sachiez.
Absolument. J'ai garé mon vélo à une place autorisée, donc il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous.
Donc, s'il y a prolongation au Parc des Princes, il y a un souci, je ne veux pas dire, mais bon.
Oui, il n'y a pas qu'au Parc des Princes, il peut y avoir une prolongation, mais nous verrons ça. David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Et on y va, Radio Foot, c'est parti. Allez, Paris Saint-Germain.
Elle est belle cette chanson, je la connais pas. Enfin, je la connais, mais je ne connais pas les paroles.
Ah, oh, je crois que c'est pas très compliqué.
Non, c'est pas grave. Mais...
Allez, Paris Saint-Germain, il y a quelque chose comme ça. On retrouve, c'est amusant, enregistrement de 2012, on retrouve parmi les chœurs, il y a Guillaume Moirot,
il y a
non, il n'y avait pas encore Zlatan, il y a Javier Pastore. Ouais. On a Néné encore, je crois.
Oui, je pense Kevin Gamero doit y être.
Kevin Gamero, exactement.
Ah, oui, Christophe Jallet,
oui.
Mathieu Bodmer.
Il y a aussi Carlo Ancelotti, enfin bon, un temps ancien de cette équipe du Paris Saint-Germain, mais c'était le début de l'aventure des ambitions européennes, on va dire. Allez, Paris Saint-Germain, donc, cette équipe qui nous a épatés, qui nous a impressionnés il y a 3 semaines au Camp Nou, il faut le dire, elle doit confirmer quand même ce soir sur sa pelouse. Et a priori, même sa grande star brésilienne, même sans sa grande star, pardon, brésilienne, Neymar, qui est toujours limité.
C'est un peu normal.
Pochettino a dit, bon, de toute façon, pour un match de cette intensité, c'est peut-être même plus prudent. Le Paris Saint-Germain devrait ou doit se qualifier face au FC Barcelone et prouver surtout que les fantômes appartiennent au passé. Il ne faut plus parler de remontada, supplie les supporters rencontrés hier par Hugo Moissonnier.
On va faire un super match et il n'y a pas de raison. Il faut, comme on dit, il faut avancer, il faut passer à autre chose. Il faut laisser ça derrière nous et
Moi, je pense que les joueurs doivent partir comme si c'était un simple match, voilà, et non pas un match retour. Donc,
Et moi, je suis très confiant pour demain. Je veux dire, ce qui s'est passé en 2017 ne peut pas se reproduire.
Demain, on est bien. Demain, on est bien. Il faut juste pas qu'on refasse les erreurs des années précédentes. On pense pas à Manchester, on pense pas à Barça. Et à Barça d'avant. On a un mood qui est complètement différent. On a appris de nos erreurs. Et l'équipe, je pense, qu'est prête. Et donc, il y a pas de souci. Ce soir, ça va le faire. Et je les sens bien cette année-là. Allez, on va dire 3-1, doublé de Mbappé.
Maintenant, on a l'expérience qui joue en notre faveur, entre guillemets. Donc, du coup, on va essayer d'aborder le match certainement d'une autre manière. Après, à la différence de Manchester, Barcelone, moi, je pense plus que c'était de l'arrangement de l'arbitre. Alors que Manchester, non, c'est nous qui avions vraiment été... on le voit très bien quand on gagne 4-1 au Camp Nou il y a 2-3 semaines et que le week-end qui suit, on perd 2-0 face à Monaco. Alors que réellement, si on avait mis les mêmes intentions, les mêmes envies, enfin, ils auraient jamais gagné 2-0. C'est impossible. C'est impossible. Bon, avec l'équipe qu'on a, il n'y a pas de raison.
Enfin, bon, allez, pronos.
Prono, j'irai 3-2 pour Paris. Mais après, bon, du moment qu'on se qualifie, c'est le principal et qu'on parle plus de la remontada. Rien que ce terme, il m'énerve. Non, j'ai plus envie d'entendre parler de ce terme et laissez-nous tranquilles.
Et vous faites quoi dans la vie ?
Je suis ambulancier.
Ambulancier.
C'est bon ça, quand même.
Tout le monde souffre
sur l'ambulancier. Ouais,
les gens qui souffrent encore, même les ambulanciers avec ce terme.
Hein. N'est-ce pas ? Mais ne tirez pas sur l'ambulance, s'il vous plaît. Alors, évidemment, le PSG, c'est ce traumatisme qui est encore dans les têtes des gens, parce que c'est ça qu'on voit, alors plus ou moins avec ironie, plus ou moins avec... mais en tout cas, quand on nous dit « arrêtez de nous en parler », mais il y a quand même une raison à ça, Eric.
Bien sûr qu'il y a une raison.
Quand on fait 4-0 au match aller, alors même si le retour est à l'extérieur, mais on pense à Manchester United où là le match aller était, le match retour était à domicile. Donc il y a un traumatisme. Comment on sort le traumatisme de la tête d'un joueur ?
Bah déjà, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont pas concernés par cette remontada. Donc alors même si Manchester est arrivé derrière, mais voilà, il y a quand même plein de joueurs qui n'ont pas vécu ce.
Il y en a combien
4-5 ? Il y en a, ouais, un truc comme ça, peut-être la moitié de l'équipe, ouais. Déjà Navas, il y a Icardi, il y a à peu près la moitié de l'équipe. Donc je me dis que ça leur parle pas, même si on sait, on connaît l'histoire, on connaît le Paris Saint-Germain, on sait que c'est dans l'ADN aussi de transpirer sur ces matchs retours. Même si on a cassé un peu le pas la malédiction, mais voilà, un petit peu.
Oui, en allant jusqu'en finale l'année dernière.
Ouais, donc ça déjà, en plus, voilà, je pense que le match aller a peut-être rassuré un petit peu aussi dans la maîtrise et dans l'état d'esprit, c'est-à-dire que.
Oui, mais un 4-0 au match aller contre le Barça, c'est pas pareil. Ça rassure aussi.
C'était rassurant, mais c'était pas la même maîtrise que ce qu'on a pu voir sur le match aller.
C'était pas à l'extérieur.
C'était pas à l'extérieur, et puis c'était dans le calme, c'était vraiment en pleine maîtrise, c'est-à-dire que voilà, les nerfs étaient maîtrisés et le jeu aussi. Donc c'est pour ça que je suis moins inquiet sur ce retour. On a toujours un petit peu d'appréhension, mais c'est plus de l'appréhension que ce qu'on pouvait vivre avant.
Normalité du football, on va dire.
J'ai envie d'aller dans l'autre sens et de vous dire qu'il y a quand même des joueurs, une moitié d'équipe qui, elle, a connu cette remontada, les Verratti, Marquinhos, Kimpembe et d'autres.
Mbappé.
Mbappé,
pas à Barcelone, mais il a connu
à Manchester. Mais c'est vrai que inconsciemment, j'ai presque envie de dire, tant que ces joueurs seront au PSG, il faudra attendre peut-être plusieurs années ou attendre, pourquoi
tant
pas.
Tant que les supporters sont toujours là, parce que dans la tête supporters.
Non, mais alors, dans la tête des supporters, mais j'ai presque envie de dire, il faut qu'il y ait une génération de joueurs qui passe. J'entends parler de génération de joueurs. Certains joueurs, en tout cas, que les joueurs qui ont vécu ça partent. Et peut-être, pourquoi pas, que le PSG vive une remontada, mais dans son sens, qui perd un match aller et qui gagne un match retour presque pour effacer ça. Mais inconsciemment, ça va être compliqué quand même de l'effacer. On va avoir d'autres résultats. Et l'année dernière, il y a quand même eu une finale de Champions. Donc, comme quoi, il y a des choses qui ont été oubliées. Mais ça fait partie de cette histoire malheureuse aussi.
C'était contre la dernière fois que le PSG a rencontré en huitième de finale le FC Barcelone, c'était justement ça. Parce que
mais depuis, justement, moi, je pense qu'il y a ce côté, on parle de traumatisme, mais il y a aussi ce côté revanche. Vouloir montrer qu'on est passé à autre chose.
Ah ben, en allant gagner là-bas 4-1, sans doute.
Bien sûr, mais ils l'ont déjà prouvé la saison dernière en huitième de finale face à Dortmund. Il faut rappeler qu'ils avaient perdu le match aller à Dortmund. Vrai. Ils avaient été quand même bien bousculés. Et puis au retour, même s'il n'y avait plus de public, enfin le public s'était massé dehors, ils avaient gagné 2-0, un match plutôt bien maîtrisé, même si on a tremblé jusqu'au bout, parce qu'il y a un phénomène en face dont on va reparler d'ailleurs dans l'émission qui peut aussi bousculer beaucoup de choses. Mais voilà, donc il y a quand même eu un progrès, je pense, dans la la façon d'appréhender ces rendez-vous. Et la démonstration qu'ils ont faite au match aller est extrêmement intéressante. Alors, tactiquement d'abord, parce qu'effectivement, ils ont parfaitement maîtrisé le match. Mais aussi parce que dans la façon d'y aller, moi, je vois ces images qu'on a pu... c'était à Dijon, je crois, où Mbappé dit à Marquinhos, allez, si on peut en mettre 6, on en met 6. Oui. Et donc là, on a vu que à Barcelone, ils ne sont pas contentés de faire comme le faisait le PSG à l'époque, ce qui était déjà excellent, c'est d'aller gagner à Madrid 1-0 et puis dire on verrouille et puis on garde cet avantage. Là, ils en ont mis 4 pour justement bien montrer que ils sont dans une autre logique aujourd'hui. Ils sont vice-champions d'Europe et ils veulent le montrer.
Alors, on vous propose quand même d'aller faire un petit tour du côté de Barcelone, Eric, hein, si ça vous embête pas.
Bon, hein,
avec notre correspondant, François David. Bonsoir, François, bonjour, buenas tardes.
Buenas tardes, bonjour Annie, bonjour à tous. Effectivement, j'ai cru entendre frétiller notre ami Eric quand vous avez prononcé le mot remontada.
Ben alors, justement, on vous appelle pour ça parce que ce qui est étrange, c'est que, on connaît les méthodes Coué, chacun a la sienne, mais du coup, du côté de Barcelone, eh bien, on commence à se dire que c'est possible de faire ça une autre fois encore, même si eux, on le sait, en ce moment, ils en prennent beaucoup en leur défaveur des remontadas, ces Barcelonais.
Surtout, oui, c'est vrai que ces dernières années, les remontadas en Coupe d'Europe, ils ont connu ça. Ils ont connu ça à Rome, ils ont connu ça à Liverpool. Je vous parle pas de ce qui s'est passé cet été en août là, contre le Bayern. Mais alors, je vais vous schématiser ça. Disons qu'il y a une semaine, c'était mort. Plus personne ne pensait à ça, à la remontada, il y avait d'autres objectifs. Maintenant, le Barça a gagné en championnat, ils sont deuxièmes. Ils ont fait une première remontada contre Séville en Coupe du Roi. Ils avaient perdu 2-0, ils gagnent 3-0. Joan Laporta est devenu le président du FC Barcelone, grand motivateur devant l'éternel. Il va se faire un malin plaisir ce soir de s'installer en tribune présidentielle et de regarder, de défier du regard Leonardo et Nasser El Khelaifi, c'est ce qu'il m'avait dit.
C'était son cri de guerre dimanche soir quand il a été élu, hein.
Et c'est la première chose qu'il a dit. Alors c'est du populisme, on sait, c'est du Laporta.
Ouais, une petite provocation.
Mais il n'empêche dans la tête des joueurs de voir un président, parce que le Barça avait plus de président depuis 4 mois, voir un président qui les motive, qui les attend à la sortie du vestiaire, qui voyage avec eux à Paris. Ça peut faire son petit chemin, au moins dans la tête des joueurs, pour qu'ils fassent une prestation honorable. Hier, Ronald Koeman, en conférence de presse, a dit que c'est dans le football, tout était possible. Et puis, depuis 2 matchs, le Barça ne prend pas de but. Ils ont un nouveau schéma tactique, avec 3 défenseurs derrière. On va dire un 5-3-2, avec Messi et Dembélé devant, qui marche plutôt bien. Donc, on se dit... Alors, moi, j'ai participé tout à l'heure à une émission de télévision ici à Barcelone. La question était classique. Est-ce que vous croyez en la remontada? Il y avait 3 options. Oui, non, et ça dépend de Messi. Alors, le non l'emporte à 55% et le cumulé oui et ça dépend de Messi, 45%. Donc voilà, il y a très peu de chances, mais disons qu'ici, on va regarder le match et se dire que pourquoi pas, si le Barça met un but dans les 10 premières minutes, ça peut passer.
Dans l'argumentaire de François, ce qui est intéressant, évidemment, à juste titre, il a évoqué les résultats, qui sont plutôt positifs ces dernières semaines pour le Barça, en tout cas depuis le match aller. Mais quasiment la majorité de son argumentaire passe par le cas Laporta, nouveau président qui a donc motivé ses troupes, etc. Eric a connu un président qui était un peu peut-être moins négatif que lui, mais Michel Denisot à l'époque du PSG, qui était aussi un président qui comptait en France.
C'est vrai.
Mais j'ai envie de dire, c'est pas un président qui joue sur le terrain. Les 11, ils peuvent être surmotivés, tout ce qu'on veut. À un moment donné, ces dernières semaines, ils ont montré surtout sur le match aller les difficultés qu'ils avaient. On évoquera sans doute aussi les absences côté Barcelone. On parlait de motivateur. Alors Gérard Piqué, à l'aller, on a vu ce qu'il a donné en termes physiques, il n'était pas là, mais en termes de motivation,
lui, c'est quand même. Photos sur les réseaux sociaux.
Évidemment, mais lui, typiquement, en termes de motivation, c'est quelqu'un d'important. Si aujourd'hui vous avez Umtiti et Lenglet, par exemple, en termes de niveau, c'est pas top top. Donc, pardon, il peut motiver comme il veut Laporta, mais à un moment donné, il y a les joueurs et les joueurs sont loin d'être là.
Eric, faites redescendre François David et les Catalans sur terre.
Ils
descendent tout seuls.
Faut quand même avouer que c'est de bonne guerre, c'est-à-dire que ils l'ont fait. Donc il n'y a pas de raison de ne pas penser que c'est possible. Donc c'est plutôt logique dans la réflexion. Maintenant, c'était pas le même Barça. Il y avait Neymar en face qui a fait énormément du travail de cette remontada.
Là, il sera en tribune.
Là, il sera en tribune.
Aujourd'hui, vous avez Keylor Navas, vous avez un vrai gardien.
En plus, on a un vrai gardien. Défensivement, c'est quand même très compliqué du côté de Barcelone. Alors, même s'il y a le pouvoir offensif, voilà, il y a plein de choses qui changent aussi.
Alors, justement, avec François, on va en profiter. On va parler, eh bien, de ce FC Barcelone, nouvelle formule des 15 derniers jours ou des 3 dernières semaines. On va l'écouter, Ronald Koeman, qui parle justement de cette manière de dire rien n'est impossible. Et ben, en syntonie avec son nouveau président.
Nous sommes toujours en vie. Notre début de match va être décisif et le résultat dépendra de l'énergie qu'on mettra pour embêter le Paris Saint-Germain, de notre efficacité devant le but aussi. Paris a été très efficace au match aller. Nous, on joue toujours pour gagner sur tous les terrains et on se crée toujours beaucoup d'occasions pour marquer. Donc avec une efficacité optimale, je pense que rien n'est impossible.
François David, expliquez-nous ça. Rien n'est impossible. On joue pour gagner. Bon, ça, on le savait, on l'imaginait. Mais par contre, comment faire? Alors, sans piquer, on a vu que ça pouvait peut-être pas être un grand handicap, mais on a toujours pas Coutinho ni Ansu Fati hein, non plus dans cette équipe. Il y a quand même Messi, Dembélé, Griezmann et Pedri derrière.
Griezmann sur le banc a priori ce soir, Annie. Hein. Griezmann sur le banc une nouvelle fois.
Mais en tout cas, il a quand même dans ses rangs et valide. Mais on a derrière ce trio Umtiti. Si l'anglais Minguesa, c'est ça qui peut faire la différence.
Bah c'est pour ça qu'ils sont trois derrière.
Il y a Saline qui a affolé déjà. Ouais,
heureusement que c'est pas filmé, hein. Vous avez vu mes yeux là.
Bah c'est vrai que sur papier ça fait un peu peur. Maintenant c'est pour ça qu'ils jouent à trois derrière. C'est parce que c'est pour se sécuriser. Je pense moi que la défense à quatre au match aller a été une catastrophe. Que le pauvre Serginho Dest qui revenait en plus d'une longue blessure. C'est Coltiné, Kylian Mbappé on fire pendant tout ce match-là, et que Ronald Koeman a dit bon voilà, peut-être en prévision du match du PSG, peut-être après pour voir si on peut adopter cette tactique par rapport aux blessés et notamment Piqué ou aux joueurs qui sont en méforme, de jouer à trois derrière avec deux latéraux assez offensifs qui sont Jordi Alba à gauche et Dest à droite. Alors ils vont essayer de couper les relations entre Verratti et Di Maria et puis Mbappé. Mais effectivement, défensivement, ça va mieux. Ils ne sont pas pris de but depuis deux matchs. À Osasuna, qui est un petit club espagnol, mais c'est toujours embêtant de jouer là-bas. Et surtout contre Séville, qui a une puissance offensive intéressante.
Ouais,
donc, ils comptent là-dessus. Alors, je vous dis, l'objectif du Barça, vraiment dans le fond, ce soir, c'est pas de se qualifier. Parce qu'ils savent que ce qu'il y a 1% de chance, mais c'est de bien jouer, peut-être de gagner. Voilà, ce serait une première victoire pour la Porta, une victoire de prestige, d'effacer un petit peu les mémoires et de repartir sur les bonnes bases pour éventuellement gagner une Liga. Parce que l'Atlético Madrid joue deux heures avant, en championnat, un match en retard. Et si jamais ça se passe mal, ils seront plus qu'à 3 points. Donc, voilà, c'est tout un mélange, mais effectivement, l'organisation est un peu mieux. Devant, il y a Messi et Dembélé qui sont très rapides. Pedri, le jeune prodige qu'on n'avait pas trop vu au match aller, joue en numéro 10, aidé par Francky De Jong. Bon, voilà, il y a une bonne équipe en face. Ils espèrent pourquoi pas remporter le match. Et on va voir, je pense que moi, que le premier quart d'heure, on va en savoir énormément sur la potentielle ou non du Barça de pouvoir au moins gagner cette rencontre.
Xavier Barré.
Oui, c'est ce qui rend intéressant cette rencontre, c'est qu'a priori, on n'aura pas du tout le même scénario qu'au match aller. Au match aller, le Barça a joué son jeu habituel et s'est exposé, comme je l'avais d'ailleurs décrypté dans cette émission, s'est exposé au contre du PSG à la vitesse de Mbappé. Il s'est passé ce qui était écrit. Là, c'est un peu curieux d'ailleurs que Ronald Koeman n'ait pas pressenti ce qui allait se passer, en tout cas qu'il n'ait pas pris les dispositions pour. Depuis, il a changé son système tactique. On ne peut pas dire que le Barça soit très emballant dans le jeu, mais c'est vrai qu'au moins au niveau des résultats, c'est satisfaisant.
Ça tient mieux derrière, en tout cas.
Mmh. Maintenant, leur qualification contre Séville, elle est heureuse. Faut rappeler qu'il y a quand même Ocampos qui rate un penalty, ou en tout cas Ter Stegen qui l'arrête. Là, contre l'Osasuna, c'était vraiment loin d'être flamboyant. En même temps, quand vous renforcez votre secteur défensif, comme l'a très bien expliqué François David, vous mettez trois défenseurs centraux plus deux défensifs devant, puisque vous avez quand même Sergio Busquets et Frankie de Jong, plus deux latéraux, ça vous fait quand même sept joueurs à vocation défensive. C'est une négation totale
de
totale du jeu du Barça. Alors maintenant, ça peut effectivement, pourquoi pas, leur permettre de faire un résultat à Paris, mais je ne les vois pas se qualifier.
Quel serait le scénario du pire du côté du Paris Saint-Germain, Eric Rabessandratana?
C'est simple, c'est de prendre un but rapidement, en fait. Parce que ça relancerait un petit peu l'espoir.
En fait, hein.
Ouais, un petit peu, mais Bon, après, je pense qu'ils vont être prudents au départ. Je les vois pas jouer, voilà, en partant un petit peu sans calculer, en se disant, je pense qu'ils vont, ouais, ils vont être un petit peu prudents, puis après exploiter à chaque fois qu'il y aura des espaces. Le Barça est quand même obligé de sortir, même s'ils ont pas envie de se livrer.
Ils sont quand même obligés de sortir. Parce que même un 3-0 suffit pas au Barça.
Il faut marquer 4. Ouais,
juste pour compléter votre propos, Eric, parce que quand vous dites, il suffit de marquer un but et entre guillemets ça redonne de l'espoir. Je vais le voir dans l'autre sens. Il y a un but marqué et entre guillemets inconsciemment ça fait trembler les jambes du PSG des joueurs qui encore une fois ont connu ça. Plus que le Barça, c'était Manchester United quand vous avez conseillé ce but très rapide de Lukaku. À l'époque, il fallait que Manchester United réussisse une perf malgré l'égalisation rapide du PSG, ben il y avait ce but de Lukaku et on avait senti des joueurs du PSG qui étaient patraques tout d'un coup alors qu'ils avaient gagné 2-0 à l'aller. C'est ça qui inconsciemment peuvent plus faire réagir les joueurs du PSG que donner d'espoir à ceux du Barça.
Ouais. Les armes du Paris Saint-Germain ce soir, en dehors de Kylian Mbappé, parce qu'on le connaît et qu'on l'a vu à l'œuvre au match aller et qu'on espère sans doute qu'il soit dans la même forme éclatante au match retour, qu'est-ce que vous diriez, vous,
Xavier ?
Moi,
je crois que c'est la motivation des joueurs. On le voit bien, là, quand ils ont pas envie de jouer, et on le voit au Parc des Princes, et Ricky aussi à chaque match, quand ça les embête, et ben, ils jouent 20 minutes, ils mènent 3-0, et puis ils arrêtent de jouer. Là, ils sont venus à Paris pour la Ligue des Champions. Donc quand ils sont en Ligue des Champions, on le voit, ils sont hyper motivés. Alors parfois ça se passe pas bien parce que c'est la loi de ce sport là mais on l'a encore vu la saison dernière où ils ont fait quand même un parcours assez irréprochable. Donc moi je crois que c'est d'abord ça qui va leur servir. Vous voyez, la répétition, ils ont eu, j'allais dire, une répétition idéale, pas tout à fait, parce que Brest est très joueur, ce qui est plus le cas de Barcelone actuellement, mais là ils vont jouer à Brest, qui est une équipe qui marche bien en Ligue 1, en Coupe de France, un samedi soir où ils avaient peut-être envie de faire autre chose. Et puis finalement, voilà, ils ont plié l'affaire 3-0 et on voit qu'ils étaient vraiment délibérément dans cette optique de bon, on a un rendez-vous de Ligue des Champions, il faut y être, il faut pas le louper.
Salim,
aujourd'hui,
fatal.
Le truc, c'est que moi, perso, j'ai envie de voir un homme. Hein, j'insiste sur Kylian Mbappé. Pour le coup, vous vouliez en voir un autre. Moi, c'est lui. Après, le match aller incroyable qu'il a pu faire. On évoquait la motivation de ces grands joueurs. On évoquera le cas Erling Haaland, qui a joué la veille de Kylian Mbappé. L'autre fois, c'était l'inverse. Et entre guillemets, c'était Haaland qui, en quelque sorte, a répondu aux Français.
Un peu comme Messi et Cristiano à l'époque.
C'est ça. Là, c'est l'inverse. Après ce qu'a fait Haaland hier, j'ai envie de voir la réponse de Mbappé et de le voir encore motivé. Et donc, aller dans le sens de Xavier. Ouais. Ben, un grand joueur, s'il est motivé, qu'il le prouve encore ce soir.
Et qu'il surtout soit. Qu'il continue sur la lancée.
C'est pas forcément bonne nouvelle pour le Barça, parce qu'il a besoin d'avoir des challenges comme ça, Mbappé. Moi, je pense que l'arme de Paris, c'est Verratti. Vraiment. C'est vraiment Verratti. Si lui est au top,
hibou.
Comme au match aller.
Si lui est au top, je suis pas vraiment inquiet, en sachant qu'on a Navas derrière. Ouais, c'est embêtant parce que il a été très intéressant au match aller dans le travail, dans le replacement, dans le travail défensif, dans la participation offensive aussi. Ça m'embête. Après, ça m'inquiète pas forcément, mais ça m'embête qu'il soit pas là.
Et pardon de parler déjà du tour suivant, mais Verratti et Paredes, s'ils prennent un jaune, ils sont suspendus pour le quart. Et ça, en revanche, c'est pas négligeable.
François David, pour terminer, justement,
oui.
Allez-y.
Oui. Et ben justement, Annie, moi, je pense que ce que veut faire le Barça, c'est essayer de faire péter les plombs à un joueur du Paris Saint-Germain et qu'il soit expulsé. Alors je pense à Verratti, je pense à Paredes, je pense à Kurzawa. Je pense que moi, que leur objectif, ça va être de les chauffer vraiment bien. Ils ont des joueurs comme Busquets, peut-être De Jong, peut-être des joueurs
Mais Busquets, il peut remplir le rôle à lui tout seul, je crois.
Voilà, ils peuvent cibler un joueur du Paris Saint-Germain pour leur faire péter les plombs et être après à 10. Donc dérailler, oui, pardon, et d'être dans de meilleures configurations. Je pense que la gestion mentale du Paris Saint-Germain, on le sait, dans les matchs retour, va être hyper décisive et que le Barça, lui, est préparé à ça.
Comme quoi, c'est vraiment plus le Barça d'avant. Hein.
On n'attend pas le jeu.
Ouais, on se croirait avec Pépé dans le mauvais rôle à l'époque où il était encore au Real Madrid. Merci beaucoup, François David, d'avoir été en direct avec nous et bonne soirée alors du côté de la Catalogne.
Et très bon match, ça marche.
Merci.
Bonne soirée.
On souhaite ça surtout à Eric quand même.
Merci Eric.
Le match est à suivre sur RFI. Au Parc des Princes, il y aura Hugo Moissonnier et Frédéric Suteau. Et sur une autre antenne de Radio France, ce sera Eric Rabessandratana. Et puis en studio, il y aura Tom Rossi, Sofiane Amazian, Eric Chorin et Xavier Ebarré. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On continue. Liverpool. De 2 buts d'avance pour les Reds sur la même pelouse qu'au match aller, c'est-à-dire à Budapest, puisque mesures sanitaires de notre époque obligent. Liverpool et le RB Leipzig s'affrontent en territoire finalement neutre, même si cette fois le terme à domicile sera du côté anglais. D'ailleurs, il vaut peut-être mieux qu'il ne soit pas à Anfield, ces joueurs de Liverpool, terrain maudit, 6 défaites consécutives en championnat. Alors, est-ce l'heure de stopper l'hémorragie? L'international néerlandais Jorginho Wijnaldum veut y croire.
On traverse une période compliquée, c'est sûr. Je pense que tout le monde peut s'en rendre compte, mais nous restons confiants. Évidemment, nous ne sommes pas habitués à la situation dans laquelle nous nous trouvons, avec les blessures, avec les joueurs qui ont attrapé la Covid, avec le moment difficile rencontré cette saison, et en raison des résultats défavorables.
Alors malgré leur méforme, on va dire, hein, c'était quand même deux des membres de ce trio magique qui avait marqué la dernière fois, c'était Salah et Mané qui avaient inscrit un but. Est-ce que Liverpool doit être méfiant de la, on va dire, de la jeunesse du RB Leipzig qui a peut-être appris avec le match aller?
Oui, il faut surtout rappeler que les deux buts qui ont été marqués au match aller l'ont été sur deux cadeaux de Leipzig quand même, hein, la défense et notamment Upamecano de mémoire qui avait fait une belle offrande pour permettre à Liverpool de marquer. Donc Liverpool n'avait pas été transcendant, mais au moins Liverpool défensivement avait fait le boulot. Oui, c'est tellement rare de le dire ces dernières semaines, mais il y avait eu en tout cas une assiduité défensive et donc une efficacité offensive que l'on ne voit plus, ou en tout cas beaucoup moins en championnat. Donc oui, la méfiance, elle reste en plus qu'on a vu ce week-end, même si ce week-end c'était très particulier avec la défaite face à Fulham, car Jurgen Klopp avait décidé de largement faire tourner son effectif. La défense, à part Andy Robertson, ce n'était pas les défenseurs habituels qui avaient évolué au milieu
déjà
de terrain.
Déjà que c'est jamais plus depuis qu'il y a plus de Van Dijk, Matip, tout
bien
ça,
sûr.
C'est plus...
Non, non, mais là, en plus, c'était vraiment les jeunes, vraiment. Pour le coup. Au milieu de terrain aussi, ça avait fait tourner en attaque aussi. Firmino n'était même pas là. Donc tout à l'heure, dans le sommaire, je parlais de All-In. Aujourd'hui, c'est l'impression qu'on a avec Jurgen Klopp et Liverpool. Il y a une qualité qui est intrinsèquement impressionnante à Liverpool. Quand les 11 joueurs sont là, en tout cas en forme, évidemment, on est tous d'accord. Et on se dit presque, est-ce que Liverpool ne va pas faire? Donc, All-In sur la Champions League, quitte à mettre de côté le championnat et à se dire, bon, on a
qualification
retour, les deux
quarts,
les deux demi et la finale. Ouais. On a potentiellement 5 ou 6 matchs pour aller en finale et donc la gagner et jouer la Champions la saison prochaine.
Xavier Barret, vous croyez à ce scénario?
Que Liverpool laisse complètement tomber le championnat, non. Moi, j'y crois
pas. Vraiment, mais...
J'y crois pas, parce que même s'ils sont un peu distancés, ils ont encore des matchs importants à jouer. Et puis,
la quatrième place n'est pas atteignable.
C'est pas le genre de club, mais...
C'est pas son genre. Et puis, c'est quand même très hasardeux de tout miser sur la Ligue des Champions.
Bien sûr,
franchement.
Ça oui.
Parce que là...
Si on tombe sur le Bayern au tour d'après, c'est
sûr. Bayern City, oui, bien sûr.
Comme le rappelait Salim Bamgali, à Leipzig, enfin, c'était à Budapest, mais ils ont pas été extraordinaires. Ils ont été très efficaces. Ils ont paradoxalement pas dominé le match comme ils le font en championnat, mais par contre ils ont été efficaces, ce qui leur manque en championnat.
Totalement.
Donc ça a été une prestation complètement à l'inverse de ce qu'ils font actuellement en Première Ligue. Donc sur ce qu'on a
avec
vu
avec deux buts d'avance dans la compétition, c'est pas mal déjà.
Oui, face à un adversaire en plus qui leur convient bien, puisque Leipzig prend systématiquement le jeu à son compte, joue très haut, voilà, et effectivement il y a des erreurs de défense. C'était Nordi Mukiele surtout qui s'était troué sur les buts de Sadio Mané. Donc voilà, on connaît la générosité du jeu de Leipzig. Le PSG d'ailleurs en avait su très bien en profiter en demi-finale de la dernière Ligue des Champions en s'imposant 3-0. Donc voilà, le Liverpool, je pense là, en gérant cette rencontre, doit pouvoir passer en quart de finale. Après, ce sera une autre histoire.
Eric, pour vous, c'est Liverpool qui passe ou pas?
Bah, Séville est moins bien quand même en ce moment. Donc,
Leipzig, déjà au chapitre suivant.
Leipzig, moi j'aime beaucoup cette équipe parce que c'est un collectif qui est intéressant et qui peut retourner cette situation.
Non, et en championnat, en plus, ils tiennent la dragée haute.
En championnat,
encore,
je le dis, c'est vraiment un collectif, cette équipe de Leipzig. C'est pour ça que je me dis qu'elle peut faire quelque chose. Alors, même si elle joue pas à domicile, forcément, ça sera même elle aura pris quelques repères quand même là-bas.
Ils ont des joueurs hongrois donc ils sont un peu chez eux en fait à Budapest.
C'est beau slide même s'ils jouent pas.
Après forcément Liverpool peut s'appuyer sur Salah qui est quand même l'homme fort de cette équipe qui les transcende parce que le reste c'est quand même une grande inconnue.
Ouais. Après la notion de fraîcheur a son importance là où Leipzig n'a pas forcément pu faire tourner ce week-end. Liverpool l'a fait. Liverpool a largement fait tourner
avec une arrière-pensée, ça peut compter quand même. C'est évident. Rendez-vous donc pour la soirée Ligue Ligue des Champions sur RFI. Ça sera à 20h59, heure de Paris, 19h59 en temps universel. Allez, retour eh bien, sur la soirée d'hier.
La McKennie s'est fait enrhumer, s'est fait prendre par Sergio Oliveira qui lui avait fait un petit pont. Il s'est vengé en mettant une petite claque. Bon coup franc, un peu lointain, légèrement sur la gauche, mais il a pris beaucoup d'élan. La frappe à terre. C'est dedans. C'est magnifique. Au ras du poteau. Et c'est dedans, magnifique. Chesney du bout du doigt, il n'a pas réussi à l'intercepter. Et c'est la fête. Il exulte tout. Sergio Conceição en tête, incroyable. C'est Porto. Quel but, magnifique. Quelle patate. Il l'a mis dedans de but partout. Ce sera un nouveau corner. Je vais rapidement. Allez, voilà. Le but de la Juventus de Turin. Fin de match tellement folle. C'est Adrien Rabiot qui marque. 117e minute. Il reste 3 à jouer. La Juventus Turin repasse devant. C'est fini, c'est terminé, Porto est qualifié.
Oh, la joie des Portugais.
C'est énorme ce qu'ils ont fait ce soir.
Quelle désillusion de la Juve, incroyable.
Et oui, une sombre soirée pour la Juventus et ses tifosi. Hier soir, l'équipe de ce grand club d'Italie a été éliminée de la Ligue des Champions en dépit de sa victoire. Donc, vous l'avez entendu, 3-2. Et par une petite équipe, dirait-on. Le FC Porto compte pourtant autant de Coupes des Champions que la Juventus. Quel courage et quelle résignation, surtout. Salim Boumgali, parce que les joueurs de Sergio Conceição, ils ont été réduits à 10 à la 54e minute. Et ils ont tenu juste jusqu'à la fin des prolongations, c'est-à-dire 120 minutes.
Ouais, Mehdi Taremi qui écope d'un deuxième jaune, en plus un deuxième jaune stupide, hein, un dégagement du ballon comme on a parfois ces mauvais réflexes.
Stupidité peut-être pas de lui, peut-être aussi de l'arbitrage. Non
oui, mais après l'arbitre Kuipers qui doit lui malheureusement respecter la règle. Enfin, ça bon, c'est encore autre chose. Bref, deuxième jaune et Porto. C'est vrai que jusque-là, Porto avait bien tenu, hein, bien géré. Alors même s'il y avait eu ce but concédé rapidement en seconde période, mais Porto avait été plutôt bon jusque-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on se dit Porto à 10, la Juve qui doit marquer deux buts en une trentaine de minutes pour potentiellement se qualifier, on se dit que Porto va pas résister. En plus, il y a le deuxième but marqué par la Juve. Oui. Là, on se dit que c'est mort. Ça va être terminé et que la Juve va marquer ce troisième but. Ça va être fini avant la fin du temps réglementaire. Mais la résistance de Porto, surtout vraiment illustrée par un homme. Pep, hier, il a été titanesque. 38 ans et il a montré vraiment... c'était le grand Pep du Real.
Exactement. Et en plus, fait de jeu, hein, il se prend un coup en début de match où on lui recoupe plus ou moins, l'arcade sourcilière et tout. Donc vraiment, il est marqué. Ouais. Et malgré tout, on le voit partout quand il faut sauver les buts. Et écoutons eh bien une réaction intéressante, parce qu'il y a eu un but magnifique quand même, en plus du pénalty marqué par cette équipe et par Sergio Oliveira, le capitaine de Porto. C'est ce coup franc. Et évidemment, on nous révèle que ça avait été savamment travaillé. C'est ce que a dit le Congolais de Porto, Charles Mbemba.
On savait déjà, on a regardé les vidéos, quand il y en a une coup franc, les défenseurs des Juve, ils sautent. C'est ça, Sergio, on a travaillé ça à l'entraînement. On savait quand ça passe les murs, ça va être vite. Ouais, on a travaillé ça. C'est le fruit du travail, c'est ça, ça arrive.
Je corrige tout de suite, c'est Chancel Mbemba. Pardon, monsieur Chancel. Xavier.
C'est vrai que lui, il a été impressionnant.
Il est drôle en plus, parce que maintenant, on voit ces coups francs où on a un joueur qui se couche par terre, justement, pour que ceux qui sautent. Ouais, et là, le ballon
se lève. Il n'y avait pas derrière le mur, c'est vrai.
Non, mais il y a vraiment la défense de Porto avait préparé Sergio Conceição, l'entraîneur avait vraiment préparé ce match avec énormément de précision.
Mais comme à l'aller, parce qu'on se souvient à l'aller, ils avaient éteint Cristiano, ils avaient éteint les principaux axes offensifs.
Avaient été très bons, mais la Juve avait été vraiment médiocre. Alors que là, hier, la Juve a quand même fait ce qu'il fallait.
C'est quand Chiesa se réveille en deuxième mi-temps.
Ils ont eu un peu de mal à rentrer dans le match. C'est vrai que la première période, en plus, ils dominent au tout début, puis après, ils ont ce pénalty qui peut être objet de discussion, bref, qui fait que ça leur met un petit coup sur la tête. Mais bon, ils sont reboostés à la mi-temps, ils reviennent, ils font une deuxième mi-temps incroyable. Ouais. Comme le disait Sally, moi, je pensais qu'ils allaient en mettre 4. Mm-hmm. Et puis, en fait, ils en mettent que 2. Du coup, on se retrouve en prolongation, même si...
Alors, ils rataient tout aussi, hein, parce qu'il y a cette barre d'un ballon de Cuadrado. Oui. Morata aussi, qui rate 2 ou 3 fois des choses presque évidentes.
Mais après, le système défensif de Porto était extrêmement bien étudié, avec la ligne de 4 qui était... très axiale, très centrale donc, et les quatre milieux avec les deux de côté, donc le Mexicain Corona, et puis de l'autre côté, je crois que c'était Otavio, qui descendait en fait combler le couloir en phase défensive, qui ont fait un travail extraordinaire, et puis dans l'axe, Sergio Oliveira et le Colombien Mateus Uribe qui faisaient l'essuie-glace de façon extraordinaire et absolument inépuisable. Donc tactiquement, le Porto de Sergio Conceição a donné quand même une petite leçon à la Juve de Pirlo.
Et on les retrouvera, ces petits, hein, parce que je pense que beaucoup auraient aimé tomber contre eux, et bien on les retrouvera en quart de finale. Alors c'est la troisième année consécutive que cette vieille dame tombe en huitième de finale contre Porto, donc Lyon l'an dernier avant l'Ajax d'Amsterdam. La presse italienne étrille le grand club de Turin, la Juve sombre pour la Gazzetta dello Sport qui dit autre désastre. Monsieur Agnelli, que vas-tu faire? Et le Corriere dello Sport lui dit trahi par Ronaldo. Alors c'est une catastrophe, c'est terrible.
On le rappelle, hein, s'il dit ça aussi, c'est parce que dans le mur, c'est lui qui est dans le mur et qui saute, et la balle passe sous ses pieds et va dans le but. C'est pour ça qu'on parle de trahir par Ronaldo.
Est-ce qu'on peut attribuer une défaite, Eric, à seulement, alors là en l'occurrence, hein, pour la presse, c'est Cristiano Ronaldo et Pirlo?
Bah disons que quand vous avez votre homme fort sur lequel vous vous appuyez depuis tellement longtemps
et sur lequel on a misé 100 millions
le jour où il fait pas la différence, et ben forcément tout retombe sur lui, comme s'il avait fait la différence, tout allait sur lui. Donc c'est une logique malheureusement qui arrive souvent dans le sport. Maintenant non, c'est un sport d'équipe, donc du coup ça fait quand même 3 ans d'affilée, donc ça veut dire qu'il y a quand même un problème.
Il faut replacer ça dans le contexte italien. La Juventus est championne d'Italie depuis 9 années d'affilée. Cette année, c'est pas sûr qu'ils le soient, mais écrasent la Serie A depuis tant de temps, et donc ils se payent l'un des deux meilleurs joueurs du monde avec un tarif exorbitant, parce qu'il y a eu 100 millions de transferts, mais il y a 54 millions de salaires bruts sur 3 ans. Le petit calcul qui circule chez les tifosi en Italie, c'est 262 millions d'euros investis par la Fiat, hein, parce que la Juve c'est quand même Fiat, hein, et par la famille Agnelli, pour à l'arrivée faire 2 huitièmes de finale et un quart de finale. Effectivement, c'est un fiasco total.
C'est pas que Ronaldo. Ta défense depuis quelques années, elle est quand même loin d'être.
C'est parce que tu fais un choix politique de miser énormément d'argent sur un joueur.
Et du coup, autour, on lui met pas beaucoup de monde.
Alors ils ont recruté. Si, quand on va chercher De Ligt, c'est de l'argent. Quand on prend Bernardeschi, Chiesa, les jeunes Italiens, on met aussi de l'argent dessus.
Chiesa, c'est un prêt encore.
Oui, ça va se transformer en transfert probablement. Donc voilà. Donc il y a eu de l'investissement. Rabiot, bon, il était gratuit, mais il faut lui payer ses salaires. Donc ils vont chercher des jeunes pour renouveler l'effectif, mais ils mettent tellement sur Cristiano Ronaldo parce que c'est leur choix politique que forcément aujourd'hui ça se retourne contre lui.
Et ça ne correspond pas à ce qui a été la politique si longtemps de Turin. Absolument.
Juste la saison dernière, lorsque la Juve se fait sortir par Lyon, Agnelli après le match évoque et explique lui-même, il parle d'une équipe vieillissante de la Juve, sous-entendu équipe qui doit être renouvelée. Alors Xavier en a parlé de ces nouveaux jeunes qui sont arrivés, les Chiesa, Kulusevski et autres, mais c'est vrai que défensivement c'est là, à part De Ligt.
Bien sûr.
De Ligt, hein, c'est pas qui,
mais De Ligt aujourd'hui n'est pas à 100%. Très performant quand même.
Et le problème, c'est qu'il est loin d'être encore à 100%, en tout cas d'être au niveau de la Juve. Et aujourd'hui, on a une défense, justement, qui est vieillissante, un Chechny qui n'est pas transcendant. Et c'est aujourd'hui, le secteur défensif est à refaire à la Juve. Ça, peut-être autour de De Ligt d'ailleurs.
Tu prends deux buts à l'extérieur et tu prends 2 buts à domicile. Donc, ta défaite, elle est logique contre Porto, finalement, quand tu regardes comme ça.
Même si au final, les 4 buts, quand on les observe, c'est presque 4 cadeaux. J'ai presque envie de dire. Parce que le pénalty hier, le coup franc, vous devez jamais vous prendre un tel coup franc. Et puis au match aller aussi, avec ses erreurs défensives. Mais bon, vous allez me dire, c'est fait d'erreurs parfois.
Le débat, et on ira sûrement en parler bientôt avec Matteo Cioffi, évidemment, ça sera est-ce que Pirlo ou pas. Alors, il va sans doute terminer la saison, mais est-ce qu'il tiendra une saison de plus? Eh bien, ça sera
quand
la
même
grande.
La Juve sans titre, rien. Ça va être compliqué.
Ouais, ils auront peut-être la Coupe d'Italie. C'est un titre, malgré tout, prestigieux, en tout cas en Italie. Allez, on termine avec le cyborg de cette compétition, comme on le surnomme désormais. Le joueur qui va marquer son époque, a déclaré Julen Lopetegui. Ce fut une fois encore le magicien de son équipe et le magicien de la soirée de la Roure. C'est l'incroyable Erling Haaland, auteur hier d'un doublé et qui qualifie son équipe face à Séville.
Nous savions qu'ils allaient tout donner pour se qualifier, mais nous avons réussi à marquer dès la première mi-temps. Ils devaient en marquer deux ou trois, puis nous avons doublé la marque. C'était un match difficile, je suis fatigué, mais accéder au quart de finale, ça fait du bien.
Haaland. Haaland, gol! Se lo gritó, se calentó, ¿eh? El gol de Haaland, gol del Noruego, los jugadores se lo quieren comer.
Alors, il est étrange à voir courir hein, sur un terrain ce joueur, mais d'une redoutable efficacité. Grand baraqué, cet international norvégien qui travaille aussi pas mal à ses statistiques personnelles. Il est devenu donc le meilleur buteur de la compétition à ce jour, pour l'instant 10 buts. En plus, en huitième de finale, il a donc inscrit 2 doublés en 2 matchs et réalisé 2 passes décisives. Il a inscrit donc 4 des 5 buts de ce Borussia Dortmund et surtout 4 doublés en 4 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. Il a surtout atteint la barre des 20 buts en Ligue des Champions, plus vite que Mbappé. Alors ça joue à quelques mois près, mais lui, c'est 20 ans et 231 jours, quand Kylian Mbappé, c'était 21 ans et 355 jours, et même aussi plus vite que Harry Kane. Avez-vous du plaisir à voir jouer ce joueur hors norme, Eric Rabessandratana, qui soulève Marco Reus comme une plume.
Ouais, c'était assez drôle. Quand on regarde l'image, c'est quand même marrant.
Vous aussi, parce que quelques vous joueurs, avez à ouais, peu près la même carrure que lui.
Non, Haaland est quand même un joueur extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut pas minimiser le fait que il est avec une équipe de Dortmund qui est une belle équipe. Je demande à voir quand même derrière avec un grand club ce que ça va donner. Mais quand on est buteur comme lui, il a un instinct de but, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que c'est parti dès le départ. C'est-à-dire qu'il a pas attendu 50 matchs pour commencer à carburer. Il est arrivé.
Il a continué.
Il est quand même incroyable d'efficacité et de. Il est nature en fait. Je pense qu'il se pose pas de questions.
Quand il prend son ballon pour marquer le penalty, c'est vraiment il y a pas de tremblement.
Parce que c'est un état d'esprit. Il est déterminé dans ce qu'il fait et en fait ça se retrouve dans son jeu, dans sa finition, dans ses efforts aussi. Ouais, il est là, il est déterminé dans tout ce qu'il fait et en plus il a ce sens du but qui ça se travaille pas. Ça s'améliore, mais vous l'avez. C'est inné. Vous l'avez en vous. Et après, derrière, vous pouvez le travailler, mais vous l'avez déjà dès le départ.
Mais c'est vrai qu'en complément des propos d'Eric, là où l'impression, donc offensivement, avec ses buts et ce réalisme froid, mais tous les efforts qu'il réalise défensivement aussi, il aide énormément. Il continue de cavaler jusqu'à la dernière seconde. On se dit à un moment donné, mais comment il fait pour continuer d'avoir cette énergie-là?
Il est jeune.
Je pense qu'il est jeune.
Oui, enfin, à 20 ans, il y a beaucoup de joueurs qui ne le font pas, hein, a priori. mais c'est ça qui est impressionnant. On se dit, où est-ce qu'il va pouvoir aller plus haut? 20 buts en 14 matchs de Ligue des Champions. Si vous dites 14 buts en 20 matchs de Ligue des Champions, déjà vous êtes impressionné. Lui, c'est l'inverse. C'est invraisemblable. Il a plus d'un but par match. C'est des stats hors normes, hors du commun, hors du temps.
Xavier, sur le phénomène, sur le personnage, qu'est-ce que vous ajouteriez? Parce que il est effectivement curieux, ce joueur. On a envie de le regarder pour s'étonner.
Alors, il y a une espèce de naïveté, je pense, de spontanéité, ouais, de fraîcheur vrai. De sa part, qui est d'ailleurs bien préservée par le fait, il faut le rappeler, que son père était footballeur professionnel, hein, Alf Inge Haaland, un défenseur qui a fait carrière en Angleterre, notamment, bon, jusqu'à ce que Roy Keane lui brise la jambe.
C'est d'ailleurs pour ça qu'Haaland est né en Angleterre, à Leeds.
À Leeds, oui, absolument. Et donc, du coup, il est hyper bien entouré parce que son père est très présent. Il s'occupe de lui de façon à ce qu'il tout ce qui pourrait parasiter sa vie de professionnel est mis de côté. Et donc, le résultat, il est là. C'est qu'à 20 ans, effectivement, c'est un peu resté un enfant. Et donc, il joue comme il en a envie. Ça me rappelle un peu Messi à ses débuts. Un peu Zlatan aussi, par son gabarit.
Mbappé
quelque
aussi,
part.
Qui avait ce côté
Mbappé,
aussi. Innocent.
Cette fraîcheur. Insouciant, exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on les oppose aussi un petit peu. Mais c'est vrai qu'au niveau du style, après, vous dites, c'était ce grand gabarit. C'est vrai que c'est incroyable. La vitesse
vitesse à laquelle il va. C'est très rare d'avoir des joueurs aussi puissants, aussi un peu imposants, qui ont une telle mobilité, une telle vitesse. Je crois que le seul qu'on a vu à peu près dans ce registre ces dernières années, c'est Zlatan. Mmh. Zlatan qui avait cette capacité à dribbler, peut-être supérieure d'ailleurs à Haaland, cette capacité à accélérer et qui avait vraiment ce talent naturel en plus du gabarit. Après, des grands gabarits, il y en a eu, mais qui n'avait pas une telle... Même Yann Kohler, le Tchèque, qui était pourtant un très bon attaquant.
Il est technique quand même, c'est ça qui est surprenant en fait. Ouais. Il a quand même
T'as joué face à lui peut-être, Eric, non?
Kohler, non.
Non, t'es un poil plus âgé. Mais c'est vrai que c'était un joueur qui était aussi technique, mais il avait pas cette vivacité qu'a Erling Haaland. Pour ça que ce qui est intéressant, en plus, vous donniez ces stats, Annie, vous les rappeliez, donc 20 buts en 14 matchs de Ligue des Champions, il y en a avec Dortmund, mais il y en a aussi une partie avec Salzbourg.
Exactement.
La saison dernière, dans groupe où il y avait Liverpool. Ouais. Et ils avaient fait 4-4, je crois.
4-3,
donc,
ouais,
ou 4-3, oui. Donc c'était ouais. C'est quand même un joueur assez phénoménal. Et
c'est comme ça qu'on l'avait remarqué, d'ailleurs, parce qu'on voyait Salzbourg qui empilait les buts et on voyait ce nom étrange en se disant, mais quel est ce personnage? Et c'est comme ça qu'on a atterri, parce que la Ligue des Champions effectivement permet ça. Et ce qu'il y a à noter, mais on y reviendra sans doute demain, parce que hier soir on a eu la sortie de Cristiano Ronaldo et la qualification de Haaland dans cette compétition, et puis ce soir on risque d'avoir aussi un autre passage de témoin avec la sortie de Messi et
j'espère bien
et le sacre de Mbappé.
Depuis le temps qu'on l'annonce, c'est un peu normal en même temps
que
la nouvelle génération arrive.
Mais ce qui serait surprenant, c'est quand même d'avoir encore une fois Ronaldo et Messi qui sortent très très tôt de cette
Ligue des Champions. Mais ce serait une première de ne pas avoir Cristiano et Messi, ou l'un des deux, en quart depuis 2005, depuis 16 ans.
Ouais.
Oui, une c'est page, entre guillemets, commencerait à se tourner.
Salim, un petit mot pour terminer. C'est sur quand même cette équipe de Séville hier, parce qu'elle offrait énormément de plaisir à la regarder jouer. Et pendant longtemps, elle a mieux joué que le Borussia Dortmund hier.
Mais hier, pendant les premières 20-25 minutes, avant le but du stand d'Haaland, Séville
qui vient à contre-courant complètement.
Très bien même. À ce moment-là, il faut rappeler qu'après le match aller, Séville doit marquer deux fois. Donc, va de l'avant, Enesri, Ocampos, notamment, sont très offensifs. Il y a un contre, une erreur défensive, et là, Haaland réussit à marquer ce but. Le penalty, alors, penalty, pas penalty, la séquence invraisemblable avec l'assistance vidéo.
Scandaleux.
Donc, finalement, le penalty est marqué 2-0. Là, 2-0, honnêtement, perso, je me disais, bon, ça va être une valise, maintenant, Séville va lâcher le truc. Pas du tout,
Séville
est revenu l'état d'esprit, et à 2-2, je pensais qu'il allait avoir le troisième but, Diego Carlos. Cette balle incroyable dans la surface, on se dit, mais frappe, Diego Carlos, frappe, t'es à la 96e minute, il n'ose pas frapper.
C'était déjà ce qui s'était passé à l'aller, hein. J'avais commenté le match d'ailleurs sur RMC Sport. Le Séville prend le jeu à son compte et puis il se fait piéger sur des erreurs de défense qu'exploite Haaland, qui fait effectivement deux buts, une passe décisive. Mais il mène 3-1.
3-1, exactement,
à
assez longtemps.
Dortmund. Et toute la deuxième mi-temps, Séville continue d'attaquer, continue d'attaquer.
El Nesri
n'était pas en forme à ce moment-là. Et c'est Luke de Jong qui rentre et qui marque.
Ouais.
Et il s'en est fallu peu qu'ils arrachent le résultat nul sur leur pelouse. Donc c'est vraiment une très belle équipe. Ils quittent la Ligue des Champions quand ils sont dès les huitièmes.
Est-ce que justement, eux qui ont remporté tant de fois la Ligue Europa, est-ce qu'il y a un cap à passer? Qu'ils n'ont pas encore, je sais pas, Lopetegui a l'air d'être très compétent, mais peut-être dans le groupe.
Je pense qu'il manque un peu de moyens financiers pour garder des très bons joueurs. Vous voyez, par exemple, là, on se réjouit de Jules Koundé, qui est un joueur extrêmement talentueux, mais est-ce qu'il va rester à Séville? C'est pas sûr. On a vu Clément Lenglet est parti, Daniel Alves à l'époque est parti.
C'est pas sûr qu'il reste longtemps.
Voilà. Ils ont un modèle économique qui reste un cran en dessous des grands de la Ligue des Champions. Donc, quand ils y arrivent, on est content parce qu'effectivement, avec cette philosophie de jeu, on prend plaisir à les voir jouer. Mais il manque un petit peu de talent pour pouvoir aller plus loin dans la compétition.
Oui. Malheureusement, pour cette équipe, donc, et alors hier, bon, c'était pas la soirée de la VAR, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
L'assistance vidéo nous a régalé, effectivement, hier.
C'était incroyable, cette histoire de pénalty, pas pénalty, on rejoue.
Non,
mais
surtout, même au-delà du pénalty,
marque un but.
D'abord, Haaland qui marque ce but magnifique, d'ailleurs, tout en puissance. Au final, l'arbitre veut visualiser s'il y a peut-être une faute de Haaland qui a poussé un défenseur. À la limite, on se dit pourquoi pas. Mais l'assistant vidéo qui revient sur la séquence d'avant, enfin, c'est incroyable.
Et puis le pénalty, arrêté, on retire. Bon, enfin bref, c'était triste à voir, malheureusement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été dans cette édition de Radio Foot International. Et rendez-vous donc ce soir avec toute l'équipe de RFI pour vous faire vivre cette soirée de Ligue des Champions. Et nous, on se dit à demain.
Radio Foot International vous a été proposé par l'application de transfert d'argent Rapid Transfer International, la solution simple, rapide et ultra sécurisée pour transférer de l'argent en Afrique. Ciel d'Afrique, Caroline.